Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
On a toujours un petit pincement hein, quand on sort des fêtes. Voilà, Yaakov Yatsala Derech. Maintenant, ça y est, c'est la... après un mois comme ça de fêtes et de moments où on était tous ensemble. Voilà, on part vers une nouvelle année. Mais disent les étudiants des yeshivot, c'est à partir de maintenant qu'on étudie. Je parle évidemment, c'est vous qui me dites si je dis une bêtise, mais voilà, c'est maintenant, de maintenant à Pessah, voilà, on va commencer à étudier. Et on commence une nouvelle paracha. Et laquelle ? La première de la Torah, puisque nous nous arrêtons, nous demandent nos maîtres, jamais d'arrêter, nous ne nous arrêtons jamais, nous disent nos maîtres. On est maintenant sur Bereshit, qui est la paracha de la toute première paracha de la Torah, et qui parle de la création du monde. J'ai parfois le sentiment, Ravi de Lemel, vous allez me dire si c'est vrai, qu'elle donne un peu l'impression d'être à part. Elles sont toutes différentes, mais là vraiment, la création de l'univers, c'est vraiment une paracha en soi. Qu'est-ce qui... Elles sont toutes comme ça, mais vraiment, je sais pas, je me permets un peu de dire ça en n'étant pas un fin érudit, mais j'ai l'impression vraiment que Bereshit, c'est quelque chose d'à part. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir sur Bereshit ?
C'est vrai que c'est une paracha qui est d'une richesse extrême, avec de textes très complexes, très très complexes, des traductions pas simples à avoir, le touhibouhu, les eaux supérieures, les eaux inférieures, enfin, c'est évidemment quelque chose qui est passionnant. Moi, je voudrais m'arrêter de manière beaucoup plus simple, en tout cas, démarrer sur donc, le premier mot, le fameux Bereshit, avec l'explication que tout le monde connaît, mais j'aimerais en rajouter rajouter un texte et puis essayer d'ouvrir à la perspective que donnent nos commentateurs là-dessus. Bereshit, tout le monde sait qu'on ne traduit pas ce terme par au commencement, même si c'est comme ça souvent que l'on retrouve dans les traductions de Bible en français. Mais Bereshit, Rashi nous dit clairement que c'est Bishvil Reshit, pour quelque chose qui s'appelle le Reshit, les prémices, que l'univers a été créé. Intéressant de voir que Rashi, comme bon nombre d'autres commentateurs, ne se méprennent absolument pas sur le fait que Bereshit n'est pas lié au temps, parce qu'il n'y a pas d'univers, donc que la notion du temps ne peut pas être présente, et que donc ce premier mot veut dire autre chose. Et le Reshit, les prémices, alors il y a Midrash qui nous dit le monde a été créé aussi pour les prémices, pour le Reshit. Et de quelles prémices on parle ? Eh bien on parle aussi des Bikurim. Les Bikurim, ce sont les prémices que l'on amenait au temple de Jérusalem, rappelons-nous, lorsque en Israël, quelqu'un avait un verger ou qu'il avait même quelques arbres fruitiers, lorsqu'il constatait que les premiers fruits commençaient à mûrir, eh bien, il les identifiait à travers un petit fil rouge. Et puis après, lorsque tous les fruits étaient arrivés à maturité, il récupérait ces fruits, les amenait à Jérusalem et les offrait au temple. Et le texte nous dit, eh bien voilà, c'est pour cela que le monde a été créé. Alors évidemment, ce texte appelle à un éclaircissement. Réfléchissons à ce que sont les Bikurim. Les Bikurim, au fond, ce sont des fruits que l'on amène, mais au moment où on les amène, la Torah nous dit qu'on se devait de réciter un texte au Kohen, au prêtre, dans lequel, eh bien, on rappelait ce que j'appellerais la saga du peuple d'Israël. On disait « Arami Oved Avi », l'Araméen a voulu perdre mon père. On se rappelle en effet de toute la saga du peuple juif, depuis Jacob avec son beau-père Lavan, et puis par la suite l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte, le désert, et puis l'arrivée sur la terre d'Israël, et les fruits justement que nous amenons ici. Donc au fond, les Bikurim expriment l'idée de la reconnaissance, mais non pas juste de la reconnaissance dans le sens « je dis merci », mais surtout se rappeler de l'origine des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en point de départ des choses. Et sur cela, en effet, eh bien, il y a peut-être maintenant une leçon à prendre. L'univers a été créé pour que l'être créé retrouve son créateur. C'est-à-dire que les bikurim, ces prémices dont on parle, eh bien, sont le symbole de la capacité que l'humain a de pouvoir aller jusqu'à l'origine des choses et d'exprimer sa reconnaissance par rapport à cela. Donc on a ici déjà une première indication. Lorsque l'univers a été créé, la finalité de celui-ci, c'est que l'être humain retrouve son créateur, le reconnaisse, et c'est au passage ce que l'on demande à chacune et à chacun d'entre nous au quotidien, d'être capable de retrouver le créateur de l'univers, ne serait-ce qu'à travers l'observation de sa création. Et puis après, il y a cette autre explication que Rashi propose, « Bishvil ha-Torah » ou « Bishvil Yisrael » pour la Torah et pour Israël qui sont appelés « Réchit » prémices. Alors, qu'est-ce à dire ? La Torah, c'est tout simplement ce qui est préexistant à l'univers, mais c'est surtout un point de référence absolu. Et là, nous avons en effet une autre indication, tout au début du texte, c'est que on ne peut pas envisager la création de l'univers s'il n'y a pas, au même moment, si je peux m'exprimer de cette manière, la livraison de, allez, certains appelleront ça son mode d'emploi, mais en tout cas, de la référence qui va permettre à l'humain d'organiser sa vie à l'intérieur de cet univers. Et Israël, alors Israël, c'est le peuple d'Israël, mais c'est au fond aussi une notion qui va devoir être reprise par la totalité de l'humanité, si tant est qu'elle le désire. Israël, c'est un mot composé, yachar, elle, yachar, droit, elle face à Dieu ou vers quelque chose. La notion de la yachrut, la notion de quelque chose qui est droit, eh bien, c'est la capacité que l'on a de se rappeler en permanence d'où on vient et vers où on va, puisque une droite qui tend vers l'infini, eh bien, on se retourne, on voit son point de départ, même si parfois il est fort loin, et on voit qu'on va vers quelque chose qui est bien au-delà de nous et qui tend vers l'infini. Ça, c'est donc l'état d'esprit qui va devoir animer l'individu dans ce monde. Il est intéressant de constater aussi que, justement, ce mot « yachar », eh bien, lorsque vous prenez ces lettres et que vous les organisez autrement, vous avez le mot « shir ». « Shir », en hébreu, c'est un « shir ». Alors, quel rapport ? Le maître de dire, en se basant sur un certain nombre de textes, que à la fin des temps, chacune et chacun d'entre nous devra chanter son chant. Chacun d'entre nous aura un chant à chanter. Et qu'est-ce que ce chant, disent nos maîtres ? Eh bien, au fond, c'est l'expression de l'accomplissement qui était le nôtre à travers le travail que l'on est censé faire dans l'univers. Et ça passe par cette dimension du yachar. Alors, yachar, droiture, elle, vers quelque chose, mais aussi droiture face au créateur de l'univers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend de l'être humain qu'il s'interroge sur la manière dont le créateur de l'univers le perçoit et le voit, et non point de la manière dont les autres le voient ou dont lui-même a envie de se voir. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui va être au cœur de notre histoire. « Elokim baret Adam Yachar » dit le texte. Dieu a créé l'être humain Yachar droit. « Hema bikshu cheshbonot rabim » Et nous, par contre, nous avons envie de commencer à faire toutes sortes de calculs dans tous les sens et de sortir de cette dimension de Yashrut. « Bereshit bara » C'est-à-dire, en effet, c'est pour cela que Dieu a créé l'univers. Maintenant, évidemment, tout l'enjeu de l'univers, ça va être quoi ? C'est que nous nous retrouvons dans le monde maintenant qui va s'appeler le monde de la nature. Olam ha-teva, le monde de la nature. Et intéressant de constater, Alexander Reb, qui est en vérité au nom de Rabbeinu Bechaye, fait remarquer la chose suivante, que le terme teva, qui veut dire la nature, ce monde dans lequel nous allons être, eh bien, c'est la même racine que le mot litvoa, qui veut dire se noyer. C'est un lieu dans lequel nous pouvons nous noyer. La nature, elle peut nous faire sombrer dans une existence matérielle et exclusivement matérielle, et donc à partir de cela, de nous retrouver un petit peu à l'extérieur de l'histoire qui devrait être la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle, quand le texte va reprendre par la suite j'ai pas envie de dire le résumé de la création, mais texte de me dire « Ele toldot shamayim varetz behibaram », voici les engendrements des cieux et de la terre lorsque Dieu les a créés. Eh bien, nos maîtres font remarquer qu'il y a ici le terme « behibaram ». Et « behibaram », lorsqu'ils furent créés, peut se lire aussi « behibaram ». Avec la lettre « he », l'univers a été créé. Et vous connaissez évidemment ce symbole de la lettre « he », lettre « he » qui, dans sa graphie, est ouverte vers le bas et vers le haut. Un monde, en effet, de teva, un monde de nature, un monde dans lequel on peut être nitba, un monde dans lequel on peut se laisser véritablement absorber, un monde dans lequel on peut sombrer, mais aussi un univers dans lequel on peut s'élever. C'est en effet la graphie de cette lettre qui est ouverte vers le bas, mais aussi est ouverte vers le haut. Et celui qui, évidemment, va nous en donner l'exemple par la suite, eh bien, c'est celui dont les lettres sont identiques au mot Hibar-Am, puisque vous pouvez les organiser autrement, et vous avez le mot Avraham. Abraham qui, en effet, va être le prototype de celui qui saura justement comment faire pour que dans cette nature-là, eh bien, on puisse s'élever. Abraham qui est le prototype aussi de ce Yachar, de cet individu qui est dans cette dimension de droiture, qui sait d'où il vient et vers où il va tendre. Abraham qui, en effet, a compris que la finalité, c'était le réchit, c'est-à-dire reconnaître celui qui est à l'origine de tout, et que c'est ça, au fond, le but véritablement de l'existence. Voilà, ici, quelques toutes petites ouvertures par rapport juste à ce premier mot du texte de la Torah. Comme vous voyez, Baruch HaShem, les richesses de ce texte sont insoupçonnables, à nous d'essayer de les découvrir lentement, mais sûrement.
Et de réviser, de répéter ce soir, comme moi je le fais souvent, à table du Shabbat par exemple. Tiens, mais j'ai entendu ça, Rav Lemay, il a dit, passionnant évidemment de se remémorer les textes avec cette idée incroyable. On nous demandera, ou je ne sais pas comment vous avez dit ça, on chantera. C'est génial. C'est, d'ailleurs, souvent, le chant, souvent on a l'impression qu'on parle beaucoup. Là, on a eu de nombreuses fêtes par le chant, on a l'impression qu'on exprime beaucoup par le chant. Ravi Lidomel, je vous remercie, et je vous souhaite un beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, et on peut le dire encore Shana Tova, puisqu'on est au Bereshit, on est au commencement, alors on va tous se souhaiter une Shana Tova, une très très bonne année.
Une belle année de recommencement, de Torah, d'amour des gens qui nous entourent, et on va commencer dès ce soir à la maison, à table, avec cette belle table de Shabbat qui nous attend. C'est l'occasion de redoubler d'affection pour ceux qui sont avec nous. On oublie toujours que les premiers invités, c'est nos enfants, c'est nos plus proches. Rav Mordechai Bitton, on continue à survoler la paracha avec vous ce soir, vous qui êtes à Jérusalem. Vous avez dû passer des moments extraordinaires là, avec toutes ces fêtes. Et vous voulez revenir sur un enseignement du Gaon du Vilna qui dit que toute la Torah se retrouve et comprise dans un seul mot, ce mot c'est Bereshit. Pour le Gaon, toute la Torah est incluse dans un mot, Bereshit. Pas une paracha, un mot. Alors bien sûr qu'on attend avec impatience de ce que veut dire cet enseignement, parce que c'est quand même extraordinaire.
Alors, pour vous illustrer cet enseignement, on raconte une anecdote. Le Gaon de Vilna un jour est convié à un repas qui suit le rachat du premier-né. Vous connaissez la mitzvah du rachat du premier-né. Hein, quand dans une famille, il y a un garçon qui est né en premier, on fait la mitzvah de Pidyon Bechor. Alors se lève un homme, pendant la Seouda, pendant le repas, et il interpelle le Gaon. Il lui dit « Rabbeinu, notre maître, vous avez dit que toute la Torah est comprise dans le mot Bereshit. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le mot Bereshit, où on trouve trace d'une allusion à la mitzvah de Pidyon Aben ?» de racheter donc son fils, de racheter son premier-né. Il y a eu un silence dans la salle, parce que celui qui avait interpellé le Gaon était un petit peu insolent, il a fait ça avec un petit peu d'insolence en lui lançant un défi, et le Gaon, comme à son habitude, répond avec beaucoup de tranquillité. Et non seulement il a souri, et non seulement la mitzvah, cette mitzvah, elle est en allusion dans la paracha, mais elle est même dans le mot de Bereshit. Pourquoi ? Parce que le mot de Bereshit, c'est les initiales de Ben Rishon, Achar Shloshim Yom Tipadé. Le Ben Rishon, le premier fils, après 30 jours, il sera racheté. Et voilà que les gars de Villa donc, nous trouvent ici une allusion dans le mot Bereshit à cette mitzvah-là. Alors, il posait la question également à son élève, Rav Zalman Volozhin. Elle avait dit comme ça, où est-ce que vous trouvez, par exemple, c'est marqué que Shabbat, on peut faire confiance à un ignorant. Pourquoi ? Parce que la crainte du Shabbat est posée sur lui. Donc, si on lui pose une question qui peut avoir des incidences de halakha sur le Shabbat, on peut écouter sa réponse. Alors, sa réponse, pourquoi ? Parce que la crainte du Shabbat est sur lui. Alors, quelqu'un a posé cette question également à Zalman Volozhiner. Il a dit, où est-ce que vous avez vu une chose pareille dans le mot Shabbat ? Il dit, mais non seulement c'est écrit, mais en plus de ça, vous allez voir, c'est très précis, parce que Shabbat, Bereshit, c'est les initiales, c'est les lettres, si on renverse les lettres, de Yéré Shabbat, comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar. Il craindra le Shabbat, la crainte est présente durant le Shabbat. Et Alzé Aderer, comme on dit, de cette manière-là, les commentateurs, depuis le Gaon de Vilna, avant le Gaon, pendant le Gaon, après le Gaon, se sont exercés sur ce mot Bereshit, à trouver mille et une allusion donc à toute la création. Mais derrière cet enseignement fondamental, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Toute la Torah est comprise dans le mot Bereshit, et tout le mot Bereshit est compris dans le Bet, et tout le Bet est compris dans le point du Bereshit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? En fait, on est en train de nous dire que finalement, tout est contenu dans le point de départ, sauf Maaseh b'Machshava Tchila. Fondamentalement, les pensées que j'ai au départ, ce qui me conduit à agir, ce qui me conduit à bâtir des projets, tient d'abord et avant toute chose sur les fondations que je pose. Du point de vue scientifique, on sait aujourd'hui que finalement, tout ce qui est advenu de l'univers est contenu dans le commencement, dans le point du commencement. Ce fameux point, ce fameux Big Bang évoqué par le Ramban, par Nachmanide, ce fameux commencement, ce fameux Bereshit, il contient tout ce qui vient derrière. De la même manière, lorsqu'un individu se lance dans une aventure, de la même manière lorsqu'il construit un immeuble, de la même manière lorsqu'il pose des fondations, de la même manière lorsque quelqu'un se marie, les fondations sur lesquelles il fonde son couple. Par exemple, la Gemara nous dit qu'un homme qui fait épouser une femme seulement parce qu'il la trouve belle, il finira par la détester. Alors que si un homme admire une femme pour ses midotes, pour ses traits de caractère, et pour l'harmonie qui se dégage de leur relation, alors cette relation, elle tiendra. Etc, etc, etc. On peut donner mille et un exemples. La même chose dans le chidour, dans l'éducation. Combien les parents consacrent de temps et d'énergie à réfléchir à l'éducation de leurs enfants et, quand ils ont même un peu plus de recul, à la manière même de concevoir leur enfant et aux pensées qui accompagnent même la conception même de leur enfant. Nous voyons donc en vérité que derrière cet enseignement du Gaon de Vilna, il y a un principe qui est un principe fondamental. Tout repose sur la manière dont on démarre, tout repose sur les raisons pour lesquelles on démarre, la kavana, l'intention. C'est très intéressant parce que le mot kavana en hébreu, qu'on traduit par intention, comme d'habitude la traduction ici est infidèle, c'est le mot direction aussi. Dès que quelqu'un démarre, il part dans une certaine direction. Et cette direction-là, elle reflète son intention de départ. Direction, intention. C'est le point de départ. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit également cette idée même dans les drachot du mot Bereshit. Par exemple, Bereshit, Réchit nous dit Bishvil Israël, chez Dikra Réchit, c'est pour Israël que le monde a été créé. Israël s'appelle Réchit, Réchit et Voito. Là également, pour la Torah qui s'appelle Réchit. Également pour la mitzvah de Bikurim, la mitzvah des premiers fruits qu'on offrait en sacrifice au temple, qui s'appelle aussi Bereshit. La même chose pour la Challah, qu'on appelle Réchit Arisotechem. On va prendre une partie de la Challah, qu'on appelle ici Réchit. Et là aussi, c'est très intéressant. Pourquoi la partie de la Challah qu'on va prendre et qu'on va donner au Kohen, la partie d'une pâte à pain qu'on prélève et qu'on donne à un Kohen, on l'assimilerait à un Réchit, à un commencement. C'est une idée qui ne s'impose pas à l'esprit d'emblée. Et bien en fait, l'idée est toujours la même. Cette idée que je vais faire du pain, je vais manger du pain. Mais pourquoi est-ce que je fais du pain ? Pourquoi est-ce que je cherche à manger du pain ? Je cherche d'abord à créer, à donner. Je cherche à créer, mais je cherche à partager. Il y a cette idée que avec qui je partage le Kohen. Qui c'est le Kohen ? Le Kohen, c'est quelqu'un qui est finalement, du point de vue social, qui n'est pas productif. Mais il est au Beth Amikdash. C'est lui qui m'assure le lien avec Hachem. C'est lui qui m'assure le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui fait que la matière que j'ai entre les mains, elle a sa kavana, une intention, une bonne intention, mais la direction qu'il faut. Elle est orientée dans la bonne direction. La même chose pour les premiers fruits. Au lieu de m'énorgueillir de ma récolte, j'ai les yeux tournés vers Hachem. La même chose pour la Torah et la même chose pour le peuple juif. Il y a ici un témoignage vivant de la présence d'Hachem dans le monde. Donc ce mot Réchit, on peut, pour conclure, non seulement parler de commencement, ce qui est le pshat, ce qui est le sens littéral du mot, mais également on peut en parler comme un principe premier. Tout tient dans un principe premier. Si un principe premier est bon, et qu'il est bien orienté, qu'il est bien construit, qu'il est bien réfléchi, alors il donnera effectivement des fruits qui sont extraordinaires, sauf Maaseh b'Machshava Techila. On voit que finalement, tout tient dans la Machshava. La Machshava, c'est l'information première qui est donnée. La mystique juive va beaucoup plus loin, puisqu'elle nous dit que la Machshava, la pensée, c'est un flux, un or, une lumière qui nous est envoyée par Akadosh Baruch Hu, et que, en fait, le ciel nous envoie des pensées, et que notre travail à nous, il est finalement d'apprendre à vouloir des choses pour finalement organiser nos pensées, et puis parfois comprendre que quand on a des mauvaises pensées précisément, ben elles sont un test, et qu'elles viennent ici pour être écartées, pour pouvoir récupérer la vraie lumière qui se cache derrière. C'est repousser la mauvaise pensée, et comprendre qu'il y a ici un appel qui m'a envoyé à finalement à réfléchir de manière positive, à agir de manière positive. Donc c'est une idée fondamentale, c'est ce qui se cache derrière cet enseignement du Gaon de Vilna. Et je nous souhaite à tous, effectivement, une Shana Tova, et à partir de Shabbat Bereshit, de calculer notre trajectoire dans cette année avec des bonnes intentions et finalement dans la bonne direction. Voilà, Shabbat Shalom.
Ah, Mordechai, vous avez dit quelque chose de très beau. Vous avez dit, on aime une femme parce qu'elle est belle, on commence une relation, on se marie avec elle parce qu'elle est belle, on finira probablement par oublier qu'elle est belle, c'est vrai, ça se voit pas. Ma mère disait, la beauté, ça se mange pas en salade. Et vous avez ajouté, par contre, si on l'épouse parce qu'elle a un beau caractère, parce qu'elle est belle intérieurement, parce qu'elle a des belles midotes, la relation tiendra. Mais moi, je vais ajouter quelque chose avec votre permission, parce que c'est pas moi le rave.
Plaisir.
Moi, je suis le journaliste. C'est qu'en plus, vous la trouverez belle. Et je vous le dis. Parce que c'est comme ça que ça se passe.
Chazak, ouais. C'est exactement ce que dit le Midrash sur Eshet Chayil. Sheker Achen, c'est une beauté, c'est un mensonge, la vanité que la beauté, etc. Et Isha Yirat Hashem, il dit, la femme qui craint Dieu sera louangée. Et le Midrash a dit, pourquoi elle sera louangée? Pour sa beauté, pas seulement pour sa crainte de Dieu. Effectivement, c'est le Midrash. Hadak.
Et je vais ajouter autre chose. Vous savez, les Lubavitch à Paris, ils sont allés un peu plus loin, ils vont toujours plus loin. Et là, cette fois-ci, ils ont acheté un bateau, une péniche. Ils l'ont transformé en un lieu où on fait une péniche, un bateau, sur la Seine. Où on fait des mariages, des bar mitzvahs, des coupes de cheveux, un restaurant pendant l'été, etc. Et le chaliach m'a dit la chose suivante. Il dit, tu sais pourquoi on... Je lui demande pourquoi les Lubavitch sont aussi forts aujourd'hui. Plus le rabbi. Il m'a dit, mais parce que tu ne sais pas que nous, quand on allait voir le rabbi, lui, il nous disait, je vous donne la force pour qu'elle soit... comme si je vous pousse pour que même après moi, vous continuez. Je vous donne la force, c'est exactement ce que vous venez de dire. Je vous donne la force du début. Et il me racontait, il me disait, mais nous, des fois, avec le rabbi, on faisait des prières qui duraient jusqu'au milieu de la nuit et ça nous semblait normal. On faisait des trucs fous qu'aujourd'hui on ne ferait pas et qui nous semblaient normal parce que c'était avec le rabbi, ça pouvait durer toute la nuit. Et je crois que c'est un peu ce que c'est. Bon, ça illustre un des courants du judaïsme, mais je pense que ça illustre pas mal ce que vous dites. Là, ils ont une base, le mouvement Lubavitch, qui fait qu'il leur a donné une telle force que maintenant l'énergie, la puissance, elle se poursuit.
Oh, Hachem, écoutez, on va dire aussi que finalement, c'est valable pour le don de la Torah. Finalement, cette énergie qui a été donnée au moment du don de la Torah, qui fait qu'on est toujours là, vous et moi maintenant, à échanger et que des gens vont nous écouter, cette énergie-là, cette énergie du don, finalement, c'était une énergie aussi absolument extraordinaire. Akadosh Baruch Hu va chercher un peuple d'esclaves, ils acceptent de devenir ses serviteurs, ils partent dans une aventure, ils se lancent dans un désert, et ils vont là et ils suivent un maître qui est Moshe Rabbeinu. Cette énergie de départ aujourd'hui, elle est toujours présente dans le peuple juif. Et elle était possible, pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait un homme comme Avraham Avinu qui lui lançait des pierres sur des idoles. Son père, c'était le Ikea des idoles. Et lui, il casse tout et il part, il se met de l'autre côté. Je crois que c'est cette énergie, finalement, qui conduit le peuple juif là où il est aujourd'hui, à cette survie totalement miraculeuse. C'est une énergie de Bereshit qui défie la nature et le temps et l'espace.
Mordechai Biton, je vous remercie. Et je vous souhaite de nouveau... Alors d'abord, Shana Tova. Que vous nous dites qu'on peut encore avoir ce plaisir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, vous avez envie d'intervenir ce soir, toujours évidemment lors de notre réflexion sur Parashat Bereshit, mais vous ce soir, vous avez envie de parler de quelqu'un de très particulier, qui est peu connu, presque mystérieux. Il s'appelle Hanor. Hanor, c'est le père du Mathusalem, et il est mort dans des circonstances qui sont très précises, avec presque, on a envie de dire, avec des mystères qui nous sont révélés par son histoire. On vous écoute avec beaucoup d'attention, Avgay.
Oui, effectivement, Hanor, un homme qui est mort d'une façon mystérieuse, puisque la Torah ne dit pas qu'il est mort, elle dit qu'il n'était plus là parce que Dieu l'avait pris. Et pourquoi Dieu l'avait pris ? Parce qu'il, justement, il marchait avec Dieu. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire, marcher avec Dieu, et qu'est-ce que ça veut dire, cette mort subite. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, puisqu'on parle du père de Mathusalem, on vivait très longtemps. Son fils Mathusalem a vécu 969 ans. Lui, il est mort à 365 ans, donc un petit jeune homme, en tout cas pour l'époque. Et effectivement, c'est surprenant. Alors, il faut pour cela ouvrir le livre de Rav Dessler dans Mirtav Meliaou. Et il a une explication très intéressante sur cet homme. Et il fait d'abord remarquer que le Midrash nous dit que Hanor était cordonnier. Et que lorsqu'il préparait les chaussures, il ne faisait pas seulement les réparer, il créait des chaussures. Et lorsqu'il faisait, donc il exerçait son métier, il avait des pensées hautement kabbalistiques. On appelle ça Meyached Yichudim, il pensait à des combinaisons du tétragramme, et des noms de Dieu, des autres noms de Dieu, donc des hautes pensées ésotériques. Alors évidemment, on se dit un cordonnier, donc qui est en fait de façade qu'un cordonnier, mais qui derrière cache un très grand sage, un kabbaliste. Mais en fait, le Rav Israël Salanter dit la chose suivante, il dit c'est pas possible de comprendre ce Midrash et de le rendre au pied de la lettre. C'est pas possible que cet homme, et regardez bien comme l'approche de Israël Salanter est très intéressante, il dit c'est pas possible que quelqu'un qui exerce un métier et donc qui doit construire des chaussures, créer des chaussures, et donc il a l'obligation d'être extrêmement honnête, il ne peut pas au même moment avoir des pensées kabbalistiques et ésotériques, parce que dans ce cas-là, il ne ferait pas son métier comme il faut. Il ne serait pas totalement concentré, donc il ne ferait pas assez bien ses chaussures, il les ferait peut-être d'une façon, donc d'une mauvaise façon, et donc ça c'est totalement interdit par la halakha, qui exige qu'une personne qui, évidemment, exerce un métier doit le faire le plus honnêtement possible, et en mettant tout son cœur et toute son âme. Donc en fait, il explique que cet homme n'était pas tellement un kabbaliste, mais plutôt quelqu'un qui, en créant ses chaussures, il avait l'intention, une intention très pure, celle de rendre service, de faire en sorte que les clients soient les plus satisfaits possibles. Parce que me dire, bon, mais ça c'est un peu classique, hein, tout prestataire veut que le client soit satisfait. Donc, en fait, lui, il nous donne un grand chanor, ça veut dire mot chinour, qui veut dire éducation, et il nous donne une grande leçon sur ce qu'est la parnassa, c'est-à-dire lorsqu'on exerce un métier, qu'on en vit, comment faut-il aborder cette partie très importante de notre journée, de notre vie. En fait, on fait des chaussures, par exemple, pour prendre l'exemple de Hanor, et on essaye de faire en sorte que notre client soit satisfait. C'est-à-dire qu'on essaye de faire quelque chose pour l'autre. On lui rend service. Pour pouvoir continuer à exercer ce service, il faut prendre de l'argent, parce que tout simplement, pour pouvoir survivre et pouvoir continuer à acheter du cuir. Mais le but d'abord, premier, c'est de faire en sorte que la chaussure soit parfaite, qu'elle soit la meilleure possible, de manière à ce que le client ait le meilleur service possible. Et ça, c'est ce que Hanor faisait au quotidien. En fait, nous dit le Rav Dessler, il y a deux catégories d'hommes sur Terre. Il y a celui qui prend et il y a celui qui donne. Même dans l'exercice professionnel, on peut être celui qui prend ou celui qui donne. Est-ce que notre métier, c'est qu'un moyen de gagner de l'argent, de prendre de l'argent d'un client, avec les conséquences que ça a? Ou bien en vérité, notre métier, c'est une façon de rendre service, de donner donc le meilleur à notre client et éventuellement également prendre un peu d'argent pour pouvoir continuer à exercer ce service. Et Hanor, c'était celui-là, cet homme, et il vivait dans un monde totalement différent. Un monde de notlim, comme nous dit le Rav Dessler, c'était un monde de gens qui prenaient, parce que l'époque du Maboul, on le sait, ce sont des gens qui exerçaient le Hamas, c'est-à-dire qui prenaient de force, qui n'avaient aucun respect pour les biens d'autrui. Et c'est pour cela que Dieu les a tués, les a fait disparaître. Mais Hanor, se trouvant dans cet environnement, risquait d'être entraîné, de perdre cette qualité extraordinaire qu'il avait. Alors Dieu, par miséricorde, a abrégé la vie de Hanor, alors que normalement elle aurait dû vivre beaucoup plus longtemps, pour justement le préserver de l'influence néfaste, négative de sa génération. Donc Ennenu, il n'était pas là, alors qu'il n'était plus là, alors qu'il aurait dû être là, parce qu'en fait il aurait dû vivre beaucoup plus longtemps, parce que Dieu l'avait pris, parce que justement il suivait le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? C'est d'abord être un noten, quelqu'un qui donne, c'est-à-dire qui veut faire partager, donner du meilleur de soi-même pour les autres, et pas celui qui est là pour profiter et prendre. Cet homme Hanor, certains disent qu'il est même monté au ciel avec son corps. Enfin, évidemment, on sait très bien qu'il n'y a pas de corps là-haut, mais ça veut dire qu'il n'est pas vraiment mort. Il a eu une transformation de son corps, mais pas vraiment, il n'avait pas passé par la case ange de la mort et disparition habituelle et classique, tellement il était associé, lié à Dieu, et sans doute son plus grand mérite, c'est d'avoir résisté à l'influence d'une génération particulièrement dépravée. On sait que Mathusalem, lorsqu'il est mort, c'était le moment où le Maboul a commencé, donc on est à peu près 1000 ans avant le déclenchement du Maboul, un peu moins, et donc on est véritablement dans une génération complètement dépravée, que Dieu veut absolument effacer, parce qu'elle fait le contraire de ce pourquoi le monde a été créé. Olam chesed ibané, le monde a été construit sur le chesed, sa générosité, et cette génération faisait exactement le contraire. Hanor est un chaner, quelqu'un qui nous donne une autre orientation dans la vie. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que le Rav Dessert dit. En fait, il dit qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre ce que dit Rav Israël Salanter, qui est donc l'explication que je viens de donner, et le fait que le Midrash parle de combinaison du nom de Dieu, donc des pensées kabbalistiques. En fait, mais Yached Yichudim, ce n'est pas les combinaisons ésotériques et kabbalistiques, c'est tout simplement d'être capable de faire en sorte que le nom de Dieu soit présent dans tous les domaines, dans toutes nos activités. C'est-à-dire que lorsqu'on est cordonnier et qu'on prépare une chaussure et qu'on fait tout pour qu'elle soit la meilleure possible, qu'on le fait parce qu'on veut rendre service à nos clients, eh bien on est aussi, on est très haut, très élevé, on est un très très haut niveau spirituel, parce que tout simplement on donne à l'autre comme si on avait à ce moment-là fait des combinaisons de nom de Dieu, puisque le Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est créer un monde de générosité, de bienfaisance, de bienveillance, et c'est ce que Hanor était, et c'est ce qu'il a essayé d'enseigner à son fils. D'ailleurs Mathusalem était lui-même un tzaddik, un juste, et Dieu a attendu sa mort pour pouvoir déclencher le Maboul. Pour vous dire qu'on a comme ça une famille particulière, mais qui se distinguait malheureusement de tous les autres.
Quelle belle histoire, que je ne connaissais pas du tout. Mais quelle belle histoire. En fait, il fait un peu penser, Hanor, à Pinchas. Parce que pourquoi Pinchas a eu le droit d'intervenir et de tuer? C'est totalement interdit. Parce que c'était certain qu'il n'y avait aucune raison pour que ça soit fait pour lui. C'était certain, il n'y avait aucun. Je parle évidemment sous votre contrôle, vous me dites si je me trompe. Et il savait penser à ça, le cordonnier, j'ai envie de dire votre cordonnier que vous venez de nous présenter, ce très bel homme, le salaire, ce n'était pas son problème. Il n'était pas là. Il voulait faire que les gens aient des belles chaussures. Et je vais me permettre de vous dire quelque chose, Rav. Je suis très jaloux de vos enseignants et de vos morottes, parce que quand elles viennent travailler à l'école, à partir du moment où elles sont avec les enfants, elles ne font que des mitzvot. Vous avez remarqué ça? Vous l'avez remarqué, bien sûr, c'est votre école. À partir du moment, moi, dans mon travail, je peux donner des bonnes informations, je peux avoir de belles conversations comme celles que nous avons ce soir, donc là, on est dans une mitzvah, mais après, non. Alors que là, Mora, elle ferme la porte, elle est avec les enfants. Elle fait...
Merci, en tout cas, bravo d'avoir pensé à Pinchas, parce que Pinchas, on dit que c'est Eliaou, et qu'Eliaou lui-même, également, est monté au ciel, vous savez, par le fameux char qui est venu le chercher, un char en feu, et que son corps, en fait, il n'est pas passé par la case de la mort. Donc il y a Hanor et Eliaou, effectivement, Eliaou et Pinchas sont effectivement dans la même catégorie. Donc bravo d'avoir fait ce lien.
Très fier, merci beaucoup.
Bravo.
Rav Gué, merci pour ces très belles paroles une fois de plus, et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.